Une fois par année, je pense qu'il est important de. Je sais qu'on en parle souvent, mais peut-être pas au niveau de la prédication, mais quelle est la vision et la mission de la chapelle chrétienne? Je pense que c'est important qu'on puisse s'encourager parce que c'est quelque chose de commun, de collectif. C'est quelque chose qui réunit les efforts et les dons et les capacités et les ressources de tout le monde pour les converger vers un point commun pour justement être capable de travailler dans l'unité. L'unité, c'est pas que tout le monde fasse la même chose, mais que chacun, dans ses opérations, puisse refléter le travail de l'autre. Et non pas se nuire, mais contribuer pour un avancement. Il faut que chaque personne, dans le fond, se mobilise pour atteindre un objectif. Alors, la vision de la chapelle chrétienne, où vient la vision? C'est sûr que Dieu a donné un plan pour l'humanité. Et Jésus est venu donner ce plan qui a été une vision de comment que le royaume de Dieu pouvait prendre place au milieu de la création, comment que le royaume de Dieu peut devenir de façon concrète une œuvre qui prend place au milieu d'une communauté, d'une génération, même d'un pays. Et on parle aussi de mission. C'est-à-dire, quelle est la mission? Comment qu'on peut prendre part de façon à ce que chacun puisse mobiliser ses efforts pour contribuer à ce que cette vision-là prenne place? Et ce matin, j'aimerais justement vous partager la vision que Dieu a déposée sur la chapelle chrétienne. On parle souvent de choses très spirituelles, mais en fait, c'est ces attributs spirituels qu'on veut déverser dans la vie des gens, c'est pour leur permettre de participer à un plan. Tu peux être la personne la plus compétente, mais si tu ne fais pas partie d'un plan, tu es juste un compétent qui reste là à rien faire. Et tu peux avoir des dons, des richesses, mais si tu n'as pas de vision, il n'y a rien de ce que tu as va contribuer à un avancement quelconque. Donc, c'est important dans la vie chrétienne d'être visionnaire et d'être engagé dans une mission. Sinon, tout ce que Dieu vous a donné va tout simplement rester stérile. On est appelé à porter du fruit, donc on est appelé à semer. Vous connaissez la parabole des talents? De dire, non seulement la personne avait une mauvaise vision de qui était son maître, en disant, je n'ai pas pris le risque de l'investir au cas où je l'aurais perdu, fait que je l'ai enterré pour être sûr que quand tu reviennes, je te le redonne, parce que c'est un maître qui est dur. Il dit, je vais te traiter comme tu m'as vu, mais mon but, c'était de faire en sorte que tu multiplies, que tu croises, que tu grandisses. Je t'ai donné ce don-là comme une opportunité de prendre part à ton avancement. Donc, il y a une responsabilité qui vient avec ce que Dieu nous donne. Vous savez, la mission, la vision, c'est que Dieu dit, que la vision, Jésus l'a exprimée pendant qu'il enseignait à ses disciples comment prier. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ton royaume prenne place ici comme au ciel. Comment faire en sorte que le royaume de Dieu prenne place sur la terre? Comment faire en sorte pour étendre le royaume de Dieu? C'est ça, c'est une vision qui est importante de saisir. La vision est une image que Dieu donne. Et ce qui se complète, lorsque chacun de nous l'a, détient une vision, elle se complète comme un casse-tête. Elle nous permet de prendre la vision que Dieu nous a donnée puis la joindre, parce qu'elle donne un tableau, un grand tableau, elle donne une vision complète. Et la vision qui vient de Dieu ne vient pas d'une imagination humaine, vient d'une révélation. Et c'est ce qui fait toute la différence des projets des hommes, des projets qui viennent de Dieu. La chapelle chrétienne, lorsque Dieu nous a montré qu'il voulait commencer une œuvre, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il a commencé à faire naître dans notre esprit une vision de comment Saint-Jean-sur-Richelieu aurait de l'air si le royaume de Dieu était étendu. On a commencé à voir la région du Haut-Richelieu impactée par le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça donnerait si les familles mettraient Dieu au centre de leur foyer? À quoi ça aurait l'air les rues de la ville si les enfants seraient élevés à rechercher la faveur et la destinée de Dieu pour leur vie. À quoi redonner notre économie? À quoi redonner notre système d'éducation? À quoi redonner notre système de santé si la puissance de Christ serait amenée dans chacun de ces vecteurs-là? Que des hommes et des femmes de Dieu se tiennent avant de commencer leur journée en équipe. Imaginez-vous le maire et ses conseillers en train de jeûner puis de prier. De voir les chirurgiens dire, « Seigneur, si on peut économiser parce que tu vas guérir, on va sauver d'un heure de bloc opératoire. » Si les gens des centres jeunesse se mettent à dire, « Si on pourrait, au lieu de réadapter, juste pouvoir prendre à la base pour adapter les gens pour éviter qu'ils se retrouvent dans mon service. » Si tous ces 800 millions investis par année pourraient contribuer, non pas à réparer, mais à propulser une génération. C'est une vision. C'est une vision que Dieu dit, si tu peux voir à travers mes yeux la réalité du monde dans lequel tu te trouves, de la région que tu te trouves, si tu me permets, je vais te mettre une image qui va faire que tu vas voir les choses différemment. Alors, voici ce que Dieu a mis sur notre cœur. Tu peux-tu aller à l'autre assistante? Merci. Transmettre aux générations la passion et l'amour de Jésus-Christ afin d'investir notre société de la vérité et de la justice du royaume de Dieu. Ce sont des mots et la vision donne un sens à ces mots. On peut interpréter beaucoup de choses par rapport à seulement cet énoncé-là, mais là, si cet énoncé-là est mis dans l'interprétation de la vision de Dieu, elle commence à devenir quelque chose de puissant. Lorsque nous regardons à travers cette image, transmettre aux générations l'amour de Jésus, on commence à voir une communauté de fils et de filles de Dieu qui sont remplis des promesses de Dieu. Regarde l'avenir, non pas avec insécurité, mais regarde l'avenir avec une pleine assurance. Transmettre l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement un sentiment. L'amour de Dieu, c'est des révélations qui viennent et qui prennent forme comme le prophétique. Dieu voit ce que je fais et prend plaisir à ce que je fais parce que je cherche à lui accomplir ses plans. Alors Dieu se révèle à ma vie. Et c'est ça la transmission, c'est ça transmettre. Dieu se révèle à ma vie de dire, fils ou fille, tu es exactement l'endroit où ce que je veux. Sache que je vais te donner de la sagesse pour opérer des choses. Sache que tu n'es pas dans un lieu quelconque, tu es un lieu choisi de moi pour des œuvres que j'ai préparées pour toi. On avancerait dans le monde si des fils et des filles de Dieu pourraient marcher avec cette assurance, leur capacité, on avancerait dans le monde. Non pas en essayant de conquérir quelque chose pour se sécuriser, mais pour étendre quelque chose qui va sécuriser le monde. Et c'est ça, transmettre cette pleine assurance, transmettre cette capacité de dire, quand tu te lèves le matin, tu te lèves chargé du royaume de Dieu pour aller déverser vers cette nation. Et c'est une autre image. C'est-à-dire, si tout le monde pouvait se lever le matin avec la pleine assurance qu'aujourd'hui, ils vont être un élément d'influence, qu'au lieu de marcher pour essayer de trouver un sens à leur vie, ils vont marcher pour donner du sens à tous ceux qui sont alentour d'eux. Je suis justice et vérité. Parce que l'Esprit qui est en dedans de moi va me donner justice et vérité dans chaque circonstance. Je ne marche plus seul, je suis un fils de Dieu rempli de l'Esprit. Imaginez notre ville où 90 000 personnes se lèvent à chaque matin en disant, « Aujourd'hui, qui va avoir le malheur d'être béni? » 90 000 personnes qui se lèvent le matin et disent, « Seigneur, donne-moi de la créativité pour ce que j'ai à accomplir aujourd'hui. Donne-moi une révélation pour ceux et celles qui vont m'entourer pour qu'ils deviennent meilleurs. » Parce que quand que moi j'arrive à une place, la préciosité des gens augmente. Nous voyons des hommes et des femmes qui regardent leur avenir avec une pleine assurance, qui n'essayent pas de voir l'avenir à travers les circonstances, mais vont dans le lieu secret, dans leur vie de prière, pour avoir une image de leur avenir. Leur discours change. Ils ne sont plus des gens qui répondent à la crainte, mais c'est des gens qui répondent à l'amour. Parce que lorsqu'une personne est aimée, elle devient résiliente. Moi, je m'en fous. Ma femme m'aime, mais c'est ma blonde m'aime. Nous voyons la vie des gens en contact de fils et de filles de Dieu, des gens investis par l'amour de Jésus. Lorsque ces gens avancent dans la vie, on voit que dans leur contact, les gens sont transformés, guéris, restaurés. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui change. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre part, on doit apprendre pour nous-mêmes. On doit apprendre à avoir ce regard et de relâcher sur nous, de dire, oublie pas, tu es un fils de Dieu. Tu ne marches pas sous la contrainte des choses, mais tu marches pour t'élever au-dessus des choses. Et c'est important que nous puissions nous encourager, avoir un regard assuré dans l'avenir, d'être capable de projeter, de dire, voici les circonstances, mais cherchons la face de Dieu pour comprendre ce que Dieu a nous révélé. Parce que marcher avec des hommes et des femmes de vision, si tu ne marches pas avec les révélations de Dieu, tu trouves que ces gens-là t'amènent dans une vie de vertige. Les visionnaires dépassent les statu quo parce qu'ils recherchent toujours quelque chose de meilleur. Les gens de mission se sont donné un objectif et cet objectif-là se paye avec tout le prix et les ressources dans lesquelles ils disposent. C'est des investisseurs. Ce n'est pas des gens qui voient les dépenses, c'est des gens qui voient les possibilités d'investir. Deux personnes vont avancer de l'argent sur quelque chose, un investit, l'autre dépense. Un ne cherche pas à récolter, lui il fait juste essayer de subsister, tandis que l'autre investit pour récolter. Les fils de Dieu, c'est des investisseurs, parce qu'ils savent que quand ils sèment, ils récoltent. Être visionnaire, c'est beaucoup plus que de rêver assis. On peut rêver nos vies ou on peut vivre les rêves que Dieu met dans nos vies. Quand on voit des fils et des filles de Dieu rentrer dans leur appel, ce qui m'excite, c'est que je vois qu'il y a des choses de dire, quand tu dis « Seigneur, OK, vas-y, déverse dans ma vie. » On voit que Dieu dit « Parfait, enfin, je vais descendre sur ta vie, justice et vérité. » Parce que si tu deviens un ambassadeur de mon royaume, tu dois refléter les valeurs de mon royaume. Alors, laisse-moi réparer les endroits dans ta vie qui vont t'empêcher de refléter pleinement le royaume. Et on voit des vies. Et j'aime parce que mon couple, ma destinée, c'est exactement ça. Le royaume commence par ta propre vie, ton propre couple. L'image de tes propres relations se reflète sur ta relation que tu as avec Dieu. Jésus l'a dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Et à quel niveau que tu aimes ton frère? À quel niveau que tu comprends le sens du mot « amour » pour ton frère? Fais ta vie, je fais ma vie, comme ça on va s'aimer. Ou à quel niveau que tu aimes ton frère à la capacité que moi je l'aime? De dire, est-ce que tu vas être un levier pour ton frère? Est-ce que tu vas prophétiser pour qu'il rentre sur sa destinée? Est-ce que tu vas l'encourager à dépasser ses limites? Il y a toute une dimension. Tu peux-tu aller à l'autre acétate, s'il te plaît? Justement, je voulais faire l'annonce, mais si t'as pas manqué, j'ai un couple, Joanne et Jonathan, qui vont donner leur témoignage le 23. Et j'aime voir comment que le royaume de Dieu prend place. Lorsque des gens disent « OK, je capitule. Dieu, voici, j'ai atteint ma limite. Je ne peux plus aller plus loin sans tout casser. Alors, voici, fais une œuvre. » Et de voir comment que Dieu agit d'une façon miraculeuse. Et vous savez c'est quoi être miraculeux? Vous savez c'est quoi le Dieu de l'impossible? C'est quand tout le monde alentour de toi, OK, croit que c'est impossible. Quand tout le monde alentour de toi, tu regardes et tu dis « Ça prend juste un miracle. » Et pour moi, ce couple-là m'inspire de croire qu'il y a encore tellement, que Dieu veut tellement faire. On marche avec des jeunes pendant des années. Et on marche avec des gens pendant des années. Et on voit leur vie, on voit les blessures. Puis malgré toute la bonne volonté sur leur vie, il y a juste Jésus qui peut réparer. Et tu es là, tu les encourages à un point tel où, à un moment donné, tu deviens même irrité de l'encourager. Et tu perds même confiance, mais tu ne le dis pas, tu continues parce que tu dis, écoute, je préfère avoir confiance puis de dire que Dieu peut encore faire quelque chose que de couper même la possibilité. Oui?
Parce que le monsieur de la compagnie Cabinex, il est là, puis il ne peut pas rentrer dans son entrée. Il y a un Highlander noir, le numéro de c'est le Z15GVT.
En passant, ne pas vous stationner devant les portes du commerce en avant, non. Même dans l'entrée. Donc, vous savez, on accompagne des gens, puis parfois on est là, puis on entend, puis tu sais, sur... Je connais Joe et Joe depuis plus de 20 ans, là. Fait que c'est pas des relations qui datent d'hier, là. Et j'ai eu Jonathan qui est resté chez moi pendant quelques années, et Joanne est venue pendant qu'elle avait à peu près 13-14 ans, je pense, à peine. J'étais leader de jeunesse, puis elle était dans ma jeunesse, puis elle venait passer des fins de semaine à la maison parce que ses parents restaient trop loin, et c'est des gens que j'ai vus grandir. Et j'ai vu aussi leur vie, et quand que tu vois que dans le fond, qu'il y a des incompatibilités ou des choses de même, tu finis à un moment donné par plus croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais tu continues à encourager pareil. Mais on est dans des temps où Dieu se révèle, de dire « Laisse-moi faire une œuvre. » Et Dieu fait une œuvre incroyable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un arrive et il dit « C'est pas possible », de dire « Tout est possible à Dieu. » On a entendu des témoignages. On sait que tout est possible à Dieu. Je ne peux pas parler pour Dieu, je ne peux pas dire ce que Dieu va faire, mais Dieu a toujours une œuvre incroyable pour réserve pour chacun de nous. Venez entendre ce témoignage, le 23. Notre vision est une vision parfaite que Dieu donne dans notre esprit et inspirante pour une société à devenir, une collectivité à devenir. Et la Chapelle chrétienne va avoir ce regard pour cette ville, pour cette région. Et lorsque Jésus a prié, a donné quelque chose, a dit, il faut que vous soyez capable de voir véritablement la réalité. Je veux vous montrer ma réalité de la vision, comment que je vois le royaume à travers. Et Jésus marchait avec ses disciples pour leur montrer comment voir les choses. Et voici un des éléments qui est important de comprendre de la vision, de comment que Dieu nous la transpose. Dans Matthieu 9, 35-38, Jésus parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il disait à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lorsque tu vois comment le royaume pourrait transformer une région, une église, la vie des gens, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de dire, Seigneur, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Envoie des ouvriers. La deuxième chose qui fait que tu as envie de prier pour voir des ouvriers, c'est que lorsque tu prends conscience de ce peuple languissant et abattu, chaque jour, nous rencontrons des gens languissants et abattus que nous côtoyons à chaque jour. À chaque jour, nous sommes en présence de gens abattus et languissants. Et c'est là que la vision prend forme. Seigneur, donne-moi un regard. Vous savez, il n'y a pas une semaine où est-ce que je me dis, Seigneur, est-ce que je peux seulement déclarer sur une personne qu'elle est aimée de Dieu, que Dieu a une destinée pour sa vie? de faire en sorte que cette personne puisse sortir différent parce que j'ai relâché sur sa vie la réalité du royaume sur sa vie. Et vous savez, les gens du monde souvent écoutent davantage parce qu'ils ont envie d'entendre de quoi de frais. Mais c'est souvent dans l'Église qu'il faut vraiment s'encourager à ne pas s'endurcir au message et de dire « Seigneur, donne-moi un cœur pour le message. » Vous savez, je me bats souvent beaucoup plus dans la foi, dans l'Église, avec des gens qui ont, avec les années, ont perdu le feu de la foi, ont perdu le feu de vouloir s'investir, le feu de vouloir prendre part. Parce que les années se sont accumulées et les fruits ont été peu nombreux. Et il y a plusieurs raisons à ça. Certains n'ont pas eu de berger sur leur vie. N'ont pas eu nécessairement des gens qui ont stimulé leur foi, qui ont stimulé les choses, ont été un peu orphelins dans l'Église. Mais il y a des temps où il faut changer. Il faut arrêter de regarder ce qu'on a reçu en arrière, puis il faut commencer à devenir ce qu'on va redonner, puis ce qu'on va créer de nouveau. C'est nous qui déterminons la hauteur des choses, de dire, Seigneur, OK, je ne veux pas vivre dans l'amertume de ce que je n'ai pas reçu, je veux vivre dans la révélation de ce que je peux donner. Je veux arrêter de regarder à mon passé pour définir mon présent et mon futur. Je veux que mon passé reflète quelque chose qui devienne nouveau. Je veux que mon passé redevienne un lieu de restitution. De dire, Seigneur, ce que j'ai cru ne pas recevoir, je veux le restituer dans ma vie. Je veux avoir la foi d'aller récupérer parce que ce que tu m'as donné n'est pas pour moi, mais pour une génération. Avoir une vision, c'est de voir les choses telles que le royaume le définit. Dans Romains 10, 14, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? S'ils n'ont pas vu et jamais été prêchés dans l'Esprit, et comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne qui prêche? » Vous savez, Jésus annonçait le royaume de Dieu, parlait de Dieu. Est-ce que vous imaginez que le peuple hébreu de l'époque, le peuple d'Israël, n'avait jamais entendu parler de Dieu avant Jésus? Au contraire. Il n'avait entendu parler. Mais ce que Jésus présentait, c'était un royaume de Dieu qui n'avait jamais entendu parler auparavant, étrangement. Jésus citait les Écritures, mais d'une façon que le peuple n'avait jamais entendu parler. Jésus arrivait avec une réalité de sa relation avec le Père, qu'il n'y a jamais personne qui avait entendu parler. Jésus parlait du royaume de Dieu en fonction que les gens ne soient pas seulement en train de l'écouter, mais exposés au royaume de Dieu. Il amenait le royaume de Dieu dans toute sa vérité et sa justice. Parce qu'il dit, si tu savais comment que Dieu veut être avec toi, tu t'approcherais de lui avec en toute liberté. Et Jésus commençait à prêcher quelque chose de nouveau. Un royaume de Dieu qui n'est pas religieux, qui n'est pas pharisianiste, qui n'est pas dans la crainte, qui n'est pas dans l'orphelin, de dire peut-être que Dieu, à un moment donné, va t'accorder quelque chose. Non, Dieu te veut comme fils et fille. Et j'aime ceux qui portent le royaume. Quand tu sais que tu es une fille ou une fille de Dieu, la première fois que tu l'entends, ça donne un choc. Parce que tu dis, il y a une limite à penser qu'on pourrait être comme aimé comme Jésus. Jésus, véritablement, Dieu a ouvert les cieux pour dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Qui, moi, je pourrais prétendre d'être aimé comme Jésus était aimé? Et pourtant, c'est ça en Jean 17, 21, j'aime tellement ce verset. Jésus dit, si vous saviez, il dit, voici ma prière. S'ils peuvent être un comme nous sommes un. Je suis venu pour qu'ils soient un avec moi, pour que je les emmène un avec toi. Si vous saviez comment cette image a motivé Jésus à aller sur la croix. Il savait que la croix était l'élément qui ouvrait la porte de cette relation. Alors, lorsqu'on Jésus dit, est-ce que tu es prêt à porter ta croix? Qu'est-ce qu'il veut dire, en fin de compte? Il dit, est-ce que tu es prêt à m'emmener des gens à la présence de Dieu? parce que la croix ouvre la présence de Dieu. Porte ta croix. Amène les gens dans la présence de Dieu. Amène la puissance de la croix à la vie des gens. Et je parlais avec une sœur aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, qui me disait, écoute, c'est incroyable, je vais témoigner ça. Fait que cette sœur, Kathleen, elle disait, j'ai été voir mon beau-frère, je pense, à l'hôpital, ton frère à l'hôpital, qui avait des problèmes de santé. Elle dit, j'avais vraiment à cœur de prier pour lui. Fait que j'ai été, puis j'ai prié pour lui, j'avais vraiment... Puis pendant que je suis en train de prier pour lui, j'ai vraiment senti que Dieu voulait que je me tourne, puis il y avait quelqu'un à côté qui souffrait aussi. Et cette personne-là avait subi des imputations. Et elle a pris son courage, puis elle a dit, il faut que cette personne-là soit en contact avec la croix. Il faut que cette personne-là sache que Dieu prend... considère sa situation. Fait qu'elle s'est mis à prier pour lui et cet homme-là a vraiment senti qu'il y a eu une présence dans sa vie qui est venue une chaleur. Puis il dit, écoute, merci, je suis touché. J'ai quelque chose qui s'est passé puis, tu sais, il y a quelque chose, merci d'avoir versé sur moi l'espoir de croire que Dieu prend ma cause en main. Hier, j'étais au téléphone, on était au téléphone avec un autre sœur, un Seigneur, qui accompagnait sa mère dans les derniers instants de sa vie. Puis elle dit, écoute, elle dit, ma mère veut pas, elle souffre, mais elle a peur de partir. Fait que j'ai dit, viens, amène la présence de Dieu. Viens dans cette pièce, amène la présence de Dieu. On a prié pour elle, puis de dire, viens et enlève l'esprit de crainte, l'esprit de mort qui amène le doute. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que lorsque quelqu'un part avec l'idée d'étendre le royaume, Dieu se tient pas en réserve puis ne s'économise pas. Dieu accomplit. Michel aussi, et quand je me souviens, il y a à peu près 2 ans, il est arrivé dans l'intercession en haut et il vivait vraiment quelque chose de difficile. Et il y avait vraiment juste Dieu qui pouvait, il était rendu à ce point-là où il fallait que Dieu fasse quelque chose. On a prié pour lui instantanément. Il y a quelque chose qui est parti de sa vie. Il s'est dit, écoute, moi, il faut que les gens qui m'entourent, beaucoup de gens souffrent, il faut que ces gens-là vivent ce que j'ai vécu. Et je peux vous dire de quoi, c'est l'équilibre de la chaise. Quand on prie et qu'il voit quelqu'un qui souffre, il disait, bouge pas, trouve-moi une chaise. Parce que lui, c'est comme ça qu'il a connu sa délivrance. Lui, amener la croix, ça amène une chaise. Et on assoit quelqu'un sur une chaise, puis on prie pour lui, puis on demande à ce que la présence de Dieu descende sur sa vie. C'est ça, l'onction de la chaise. Et on a une table chez nous, une table de salon qu'on a chez nous. Et il y a des centaines de fois où des gens se sont assis sur cette table de salon pour prier. Elle a un témoignage, je pourrais l'amener faire témoigner, je pense, de tout ce qu'elle a vu de la présence de Dieu. Cette table de salon, je peux vous dire de quoi, je pense qu'on va peut-être la retrouver quelque part en haut. Elle va être sauvée. Je ne savais pas qu'on pouvait sauver une table de salon, mais je pense qu'elle va dire, écoute, j'ai mérité mon ciel, je le veux. On fait des blagues. La vision, c'est ce que l'on voit. C'est une image de ce que l'on voit, une image qui est animée par l'esprit et qui amène une vérité, une justice qui rassemble les gens. Lorsque tu entends une vision de Dieu, lorsque tu entends de comment que le Saint-Jean pourrait être transformé par l'amour de Dieu, et quand tu commences à voir comment que Dieu pourrait agir dans tant de foyers, de tant de familles, de voir que Dieu pourrait agir dans l'économie, agir dans le système de santé, dans l'école, tous les lieux, tu dis, Seigneur, comment je peux faire pour essayer de trouver une façon d'impacter ces sphères d'influence? Et là, naît une mission. La vision, c'est ce que tu vois. La mission, c'est ce que tu fais. Alors, l'énoncé de mission de la chapelle chrétienne. Peux-tu aller à l'autre à 7 ans, s'il te plaît? Juste cela avant. Dans la vision, quand on parle de fils et de filles de Dieu, on peut voir, dans le fond, la réalité de comment on doit se comporter ou de quoi on peut aspirer lorsqu'on est fils et filles de Dieu. En fait, on est ceux qui portent le royaume. De nous découle le royaume de Dieu. Et ça, c'est la capacité de la royauté en nous. Nous sommes des prêtres parce que nous avons une autorité spirituelle. Nous sommes royaux parce que nous sommes héritiers de ce royaume. 2 choses très différentes. On a connu des mauvais rois qui avaient quand même l'héritage et la richesse, mais il n'y avait pas l'autorité de régner sur leur trône. Ça, c'est les prêtres. Les prêtres ont l'autorité et les rois ont la royauté. Et ça prend les deux pour refléter le royaume de Dieu. Alors, dans cette vision, c'est lorsque vous voyez des gens remplis de la royauté, de la richesse du royaume de Dieu, des possibilités du royaume de Dieu avec l'autorité de pouvoir ouvrir les portes. C'est là que vous pouvez vraiment prendre part et commencer à être investi d'une mission. Et voici la mission de la chapelle chrétienne, étendre l'amour de Dieu en faisant du Haut-Richelieu et du Québec des disciples de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est quelque chose que j'ai réalisé dans ma vie il y a quand même plusieurs années. Le Seigneur m'a dit « Si tu veux être efficace pour le royaume, Johan, c'est-à-dire, c'est bien de l'étendre, mais c'est mieux si tu en fais des porteurs. » Le royaume ne s'étend pas au-delà de ceux qui vont le porter pour l'étendre, parce que le royaume, c'est des fils et des filles. Tu peux étendre la royauté, tu peux donner de l'argent, tu peux faire bénéficier de la richesse et de la largesse et de la bénédiction, de la force d'autorité, beaucoup de gens du royaume. Mais tant qu'eux ne viennent pas hériter du royaume, le royaume ne s'étend pas. Le royaume peut s'étendre seulement dans les héritiers. Et c'est dans les héritiers que le royaume prend part. Alors, si on veut être efficace pour changer, transformer, on peut bénir tout le monde, on peut guérir tout le monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut rendre les gens très riches à Saint-Jean-sur-Richelieu et même faire beaucoup de choses. Mais si eux ne deviennent pas porteurs du royaume, vous allez partir et le naturel va revenir. Et Jésus dit, c'est avantageux que je parte. Parce que si je ne pars pas, le royaume ne s'étend pas. Vous devez avoir l'esprit d'adoption pour devenir héritier. Je le porte. Je dois retourner auprès de mon Père pour relâcher l'Esprit, pour qu'il vienne sur vous. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous pour que le Saint-Esprit vous dise à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Pour que vous ayez l'assurance que vous êtes fils de Dieu et que vous êtes maintenant de la race royale. Alors, comment qu'on fait pour faire des disciples? Ça, c'est la question la plus... Et pourtant, c'est la question qu'on se pose le plus, et je me rends compte avec des pasteurs, et on se pose toujours la question, c'est quoi toi ton programme de formation de disciples? Et on est tout le temps en train de se challenger, et pourtant, on sait très bien qu'il y en a au-dessus de 1000 formations disponibles. Mais on revient toujours avec la même question, comment tu fais toi pour faire des disciples? La vraie question, c'est de dire, comment qu'on fait pour amener une personne dans son plein potentiel? La vraie question est ça. C'est-à-dire, je ne peux pas enseigner plus que j'enseigne là. Ça fait 4 fois qu'on fait le tour de la Bible. Mais il y a quelque chose qui ne prend pas, je ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'active pendant leur vie. Ils ont tout attendu, mais ils restent encore aujourd'hui. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne fait, qu'ils ne sont pas capables de prendre part. Peux-tu aller à l'autre étape? Parce que faire des disciples, ce n'est pas comme ça. C'est pas de même que ça soit des disciples. Il va falloir qu'on change notre mentalité. Il faut arrêter de penser. Ça, c'est le modèle grec. Il y avait, dans l'agora, il y avait quelqu'un qui arrivait en avant et qui comptait. Dans le fond, il prêchait ce qu'il croyait et les gens dans l'agora écoutaient puis applaudissaient ou huaient un des deux. Et un autre philosophe venait au centre de l'agora et commençait à faire des discours. Et celui qui rassemblait le plus de gens devant son discours bien, était reconnu comme un maître. Et un autre discours venait prendre place, jusqu'à temps que celui soit délogé, puis qu'un autre vienne, puis commence à faire. Et c'était comme ça. Et les gens, dans le fond, se donnaient le luxe de croire qu'ils avaient compris quelque chose dans la vie. Mais Jésus dit, la vérité, ce n'est pas quelque chose que tu écoutes, c'est quelque chose que tu te soumets. La vérité est vivante. Ce que tu fais lorsque tu entends, c'est des pensées d'hommes. Ce n'est pas une vérité qui est vivante, c'est seulement des pensées d'hommes mortes. La vérité est vivante et la vérité, elle, t'a fait marcher pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu es assis sans être interpellé à marcher, ce n'est pas la vérité qui te guide. La vérité suit son cours, suit la volonté de Dieu. Alors la vérité, on peut facilement s'asseoir et en discuter longtemps. Mais je peux vous dire de quoi, à un moment donné, celui qui marche par la vérité va se lever et va dire, « C'est pas toi je suis, c'est la vérité. » La vérité est missionnelle. La vérité est missionnelle. La vérité suit une mission. Et c'est pour ça que la vérité est véritable. C'est parce que vous êtes véritable dans la mission que vous poursuivez. Vous êtes authentique et vous démontrez que la vérité domine sur votre vie et vous la poursuivez. Les disciples n'ont pas été pendant 3 ans de temps à être assis pour entendre parler du royaume, mais pendant 3 ans, ils ont été appelés à marcher pour l'étendre. Ils ne comprenaient pas à moitié de ce qu'ils faisaient, mais ils étaient appelés à le faire pareil. Parce que lorsque tu veux établir la volonté de Dieu, tu dois réaliser que ça te dépasse déjà pleinement. Et tu accomplis des choses, non pas à ton niveau et à ta capacité de comprendre, mais tu les accomplis au niveau d'obéir à la vérité. Et c'est toute une compréhension. La foule attendait parler de la vérité, mais c'est les disciples qui ont été formés pour marcher dans la vérité. Alors, dans cette formation de disciples, le savoir-être et le savoir-faire est aussi important et indivisible que des trois. Tu ne peux pas se séparer. Tu ne peux pas seulement dire « j'ai le savoir ». Il faut que tu aies le savoir-faire. Et tu ne peux pas dire « j'ai le savoir » et le savoir-faire sans avoir le savoir-être. Parce que c'est la dimension de la vérité qui t'amène à la stature parfaite de Christ. Et Christ, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Est-ce qu'on est parfait? Absolument pas. Mais est-ce qu'on est capable de se soumettre à la vérité? Oui. L'imperfection fait juste nous démontrer qu'on a besoin encore plus d'avoir de la vérité et d'avoir la capacité de laisser Dieu agir dans nos vies. Et c'est un témoignage puissant pour ceux qui nous suivent. Si tu n'es pas capable de demander pardon, c'est que tu ne marches pas dans la vérité. Tu marches selon ta propre vérité. On a été dans un séminaire, je vais terminer avec ça, on a été dans un séminaire de Michel Brodeur, qui est un de ceux que Dieu a utilisé pour former, pour bâtir l'église de Reading, Bethel et Jesus Culture. Ça a été celui qui a été amené des grands mouvements en ce moment qu'on parle aux États-Unis. Et on a eu l'occasion, le privilège plutôt, d'avoir cette personne qui est venue nous donner un séminaire de 2 jours sur coacher, comment devenir coach de coach. J'ai dit, aïe, aïe. J'ai dit, t'es-tu sûr que tu parles au bon public? J'ai dit, nous autres, on a besoin de se coacher nous-mêmes, à se coacher nous-mêmes, tu sais, fait que là, tu veux qu'on devienne des coachs de coachs. Il dit, bien, parce que c'est la vision biblique. Former des disciples qui vont former des disciples. Il dit, peut-être qu'on ne prend pas le même mot, mais c'est la même affaire. Il dit, si toi, tu n'es pas en train de former un disciple pour qu'il devienne un disciple pour former des disciples, tu n'es pas en train de faire l'œuvre que Dieu t'a demandé de faire. Tu es en train de faire autre chose. Mais il dit, tu es appelé à former des disciples parce que le royaume ne peut pas s'étendre si tu ne formes pas de disciples. Alors, si tu veux prendre part à étendre le royaume, il faut que tu formes des disciples. Tu peux faire des miracles, ça fait partie de la réalité de n'importe qui, de dire ça, c'est quelque chose qui t'accompagne, c'est toi. Mais faire des miracles ne veut pas dire nécessairement que tu étends le royaume. Tu exposes le royaume, mais tu ne l'étends pas. Alors, puis là, on s'est dit, écoute, voici une conférence qu'on aime, parce qu'on se fait des années qu'on se pose la question, comment former des disciples? Il a commencé à expliquer, justement, de dire, il faut que vous ayez en place une capacité de mettre le savoir-être et le savoir-faire. Et je ne veux pas tout emmener, mais pendant qu'il était en train de partager comment il fait les choses, ça a été tellement... En tout cas, j'étais avec Christian, puis on était avec Denis Côté, puis on écoutait le avec nos épouses aussi, non? On écoutait, puis on se disait, on était tellement reconnaissant de comment que Dieu nous avait conduit, malgré des fois qu'on avait l'impression de ne pas savoir où on s'en allait. Ça fait 20 ans qu'on fait des cellules ici. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour croire que ces cellules-là vont finir par devenir un élément qui va ébranler notre collectivité. Et je peux vous dire de quoi, pendant 20 ans, il faut la regarder avec la foi. On aime les cellules, mais c'est peut-être le moins multiplicateur qu'on connaît. Mais il reste néanmoins qui dit, ça c'est une conséquence de quelque chose que peut-être que vous devez corriger Mais vous devez savoir, par exemple, que si votre Église n'est pas fondée sur l'amour des relations, il n'est pas fondée sur les relations, il dit, vous avez encore moins que rien. Il dit, au moins, vous avez quelque chose sur lequel on peut bâtir. C'est que votre Église est bâtie sur les relations, axée sur les relations. Peut-être un peu trop, mais il dit jamais trop. Il dit peut-être trop d'un bord, mais il dit, c'est juste parce que vous êtes manqué de vision par rapport à atteindre, à former des disciples. Mais il dit, la base, il dit, je peux vous dire de quoi la majorité des églises ne sont pas axées sur les relations, mais sur la programmation. Il dit, la programmation arrive à un niveau très haut dans l'échelle des choses qui doivent être établies dans une église pour que l'église puisse refléter le royaume. Mais il dit, si vous avez les relations, vous avez l'amour, que vous avez la culture de l'honneur qui est amenée dans votre église, il dit, vous avez le fondement sur lequel de grands réveils puissent prendre place. Parce que vous êtes capable de parler cœur à cœur. Vous êtes capable de gérer les conflits, parce que les relations sont plus importantes que d'avoir raison. Puis il dit, la parole de Dieu devient quelque chose de concret, parce que tu ne peux pas arriver avec une relation animée sur l'amour sans voir les principes de la parole de Dieu qui te dirige. Le pardon, tu sais, être capable de reconnaître les dons et tout. Puis, en tout cas, c'était vraiment très stimulant. Puis on disait, écoute, on va essayer de mettre quelque chose en place pour amener justement la possibilité de grandir. Il dit, vous êtes dans la bonne voie. Croyez en vous, croyez en ce que Dieu a fait. Croyez aux promesses de Dieu, vous êtes dans la bonne voie. Puis il comptait, il dit, quand vous allez arriver à pouvoir vraiment mettre les gens dans leur plein potentiel, il dit, ça va devenir graduel, mais il dit, je veux juste vous dire qu'à Reading, c'est en Californie, il dit, on a un regroupement d'hommes d'affaires qui se réunit une fois par année. Il dit, c'est des hommes d'affaires qui sont sélectionnés sur la planète parce que c'est des gens d'influence qui ont une foi en Dieu et qui veulent justement amener le royaume, l'économie de Dieu dans leur sphère. Il dit, fait que c'est des groupes qui composent à peu près 200-250 personnes qui sont amenés, sélectionnés de façon individuelle. Il dit, cette année-là, on a une année en particulier, on a décidé de vouloir bénir notre ville. Fait qu'on a demandé au maire, au conseiller de venir. Mais les autres se sont dit, bien là, tu sais, ils n'ont pas eu nécessairement une réponse très chaleureuse. Mais on dit, on va quand même, il y a un conseiller qui a fini par se dégager, puis il dit, écoute, je vais y aller. Il dit, qu'est-ce qu'une église a offré pour l'économie de ma ville? Qu'est-ce qu'une église peut faire? Fait que le conseiller commence à arriver à cette conférence, fait que il voit dans le hall des gens, fait qu'il commence à prendre contact avec quelqu'un qui est un participant qui est là, puis il dit, tu viens de où? Il dit, je viens de Dubaï. Il dit, ok. Il dit, ouais, tu viens de loin. Il dit, t'as attendu ça? Il dit, ah, on t'a sélectionné ici pour venir. Il dit, c'est vraiment sur invitation. Il dit, t'as fait un bon vol? Il dit, ouais, j'ai fait un super de bon vol. Il dit, je suis tellement content de l'achat de ce jet-là. Il dit, ok, toi, t'es venu ici en jet. Il dit, bien, pratiquement tout le monde ici sont en jet qui viennent ici. Il dit, ok, tu fais quoi dans la vie? Il dit, moi, je suis un des plus grands promoteurs du Dubaï. Et l'autre commence à prendre conscience, commence à parler avec un autre qui vient d'un autre pays, de l'Asie. Il dit, moi, je suis un homme, il dit, qui fait affaire avec l'État pour ramener telle chose. Il dit, ok, toi aussi, tu as un jet. Il dit, oui. M'accompagner à plusieurs jets. Puis il parle avec un autre qui dit, moi, il dit, à Singapour, je suis un des hommes les plus influents. Puis il part. Puis là, il dit, ok. Il s'en va voir à celui qui l'a invité. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Il dit, écoute, je suis un conseiller d'une ville. Il dit, oui, quand même, mais il dit, pourquoi tu m'as invité ici? Il dit, fais-toi des amis. Il dit, fais-toi des amis pour qu'eux puissent bénir la ville. C'est pour ça qu'on t'a amené ici. On t'a amené ici pour que tu puisses bénir la ville. Puis il dit, vous savez, ça, c'est arrivé, on n'a jamais planifié ça. Mais à un moment donné, il y a eu un jeune homme qui était là, qui a commencé à avoir de la créativité dans son esprit, pour dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose du royaume de Dieu qui pourrait affecter les finances? Puis le Seigneur a commencé à lui donner des révélations. Et de ces révélations-là, a commencé à le propulser dans le milieu des affaires. Et ce qu'il y avait comme ressources, ce qu'il y avait comme intelligence pour faire des choses, ça l'a opéré à travers d'autres personnes qui ont dit, écoute, j'ai besoin d'entendre ce que tu me dis. Viens me dire, viens me voir, viens, on a parlé. Puis au fil des années, cette conférence est devenue une conférence sélecte. Il dit, développe le potentiel de tes gens. Il dit, tu n'auras aucune idée de ce que ça va t'amener. Il dit, ça, tu n'as pas à contrôler ça. Mais il dit, toi, ce que tu dois faire, c'est t'assurer de la qualité du disciple que tu donnes. Il dit, mets ces gens-là sous la vision et mets ces gens-là sous la mission. Il dit, c'est ça ton travail. Il dit, fais-en des coachs de coachs. Il faut que tu mettes dans leur esprit qu'ils sont appelés à coacher des coachs, des disciples qui vont faire des disciples. Il dit, à partir de ce moment-là, il dit, ces hommes et ces femmes-là vont comprendre une réalité du royaume de Dieu qui va relâcher le plein potentiel. Vous savez, la chapelle chrétienne, est-ce qu'on peut aller à l'autre acétate? Justement, le projet 10-10, je vais en parler plus après-midi, de dire c'est un projet 10-10, la vision, c'est 10 groupes de 10 faire une église fille. Et c'est une façon, dans le fond, pour moi, une église, c'est pas nécessairement, oui, c'est un bâtiment, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus fonctionnel et opérationnel qu'une église. Une église, pour moi, c'est que vous n'êtes pas assis. Vous êtes en train d'étendre le royaume. Ici, c'est juste un lieu pour se propager la vision, pour vous appeler à mission. Mais ici, c'est juste un lieu d'échange. Ce n'est pas l'Église. L'Église prend véritablement sa dimension lorsque vous êtes relâché dans votre milieu. Mais j'aime croire que des équipes de gens qui vont être ensemble, des équipes de 10 avec des groupes de 10 vont constituer des éléments puissants pour étendre et avancer, se propulser. Tu peux aller dans la dernière à cette étape. Voici la chapelle chrétienne. Malgré, écoute, c'est incroyable. Le nombre de personnes qu'on est, avec ce qu'on fait, on est missionnel. Mais il faut apprendre à se coacher puis se donner des plus grands objectifs. Je pense que c'est peut-être notre capacité de foi qui est agrandie. Mais on a plus de 30 ministères qui œuvrent ici de façon quotidienne. Il y a des personnes qui, à tous les jours, ont une pensée pour que le ministère s'étende. Que ce soit les héritiers, les lions, les persévérants, que ce soit le ministère des enfants, il y a des gens qui prennent une partie de leurs ressources célébrales pour dire, Seigneur, fais une œuvre, étends. Et je crois que c'est quelque chose, c'est une prémisse de quelque chose qui va grandir, se multiplier et surtout prendre beaucoup plus d'extension. Mais il faut vraiment se mettre dans une position d'avoir des objectifs. Et c'est ça, c'est ça qu'il disait Michel Brada. Il dit, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de but, il dit, ça va être difficile d'activer ta foi. Il dit, les buts activent la foi. Il dit, il faut que tu amènes les gens à marcher non par la vue, pas répondre aux besoins, mais répondre à la foi qui, eux, va relâcher une multitude de bénédictions, qui va répondre à une multitude de besoins. Il dit, essaye pas de créer des gens qui viennent à la boulangerie faire des boulangeurs. C'est ça. Il dit, amène pas des gens à consommer, amène des gens à produire. Parce que les gens ont une ressource de potentiel illimité. Il dit, il faut que tu les fasses jaillir comme des fleuves d'eau vive. Il dit, active leur fleuve d'eau vive. Puis il dit, à partir de ce moment-là, ces gens-là vont se tourner de bord. Au lieu de devenir des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose, ça va être des gens qui vont se mettre à relâcher énormément de potentiel. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Seigneur, on veut vraiment laisser descendre ça dans notre esprit, de dire, j'ai une part. Seigneur, j'ai une vision par rapport à ça. Seigneur, je veux que tu me montres comment que dans ma ville, dans ma famille, dans mon milieu de travail, je peux devenir un fils de Dieu qui est dans le royaume. Donne-moi une mission, je veux connaître la destinée que j'ai. Seigneur, fais en sorte que je puisse exercer mes dons. Et Seigneur, que je puisse voir, Seigneur, comment faire les choses. Je relâche l'esprit d'initiative ce matin. De dire, Seigneur, ça fait des années que j'ai comme l'impression que j'ai perdu le courage d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et Seigneur, ce matin, je vais relâcher cette vérité. De dire, vous allez devenir des gens qui vont prendre la force et l'encouragement de commencer des choses de nouveau. De commencer à investir des nouvelles relations, de commencer à prendre part à des nouvelles œuvres. Et je crois que le Seigneur va déposer dans beaucoup de vies des missions, des visions, des choses qui vont permettre à ce que les gens puissent commencer à activer une force, un potentiel à l'intérieur d'eux, qui va commencer à vouloir voir les choses d'une façon différente et pousser les choses plus loin de où ils sont maintenant. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Nous sommes dans des temps où ce que nous n'avons jamais été aussi proche d'une réalité, celle que Dieu veut agir. Nous sommes dans des temps où, comme Simon l'a dit, Dieu nous sauve dans le coup. Et Dieu nous dit, fils et fille, prends place à la ligne de départ. Et cours la course. Prends part au combat. Tu es appelé pour être victorieux. Tu es appelé pour récolter des grandes médailles. Mais prends part à la course. Je vais courir avec toi. Je vais être avec toi. Je vais faire en sorte que tu ne manques pas de force, que tu ne manques pas de ressources. Je vais faire en sorte que tu puisses voir comment que c'est marcher lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, lorsque ma faveur t'accompagne. Alléluia. Ouvre notre esprit, guéris nos cœurs. Propulse-nous. Alléluia.